Jésus appelle les 12 et pour la première fois, il les envoie deux par deux. Il leur donnait pouvoir sur les esprits mauvais et il leur prescrivit de ne rien emporter pour la route, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni pièce de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales et ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Comme nous le chantions tout à l'heure au début de la messe, si le Père vous appelle, cet évangile ainsi que la première lecture sont orientés très spécifiquement sur la mission d'évangélisation. On voit par exemple dans l'évangile à l'instant comment Jésus, pendant les 3 années où il était avec les apôtres, leur a fait faire en quelque sorte des exercices pratiques, si j'ose dire. Il les envoya deux par deux et en leur donnant quelques consignes précises. On voit aussi, c'est la première lecture, que dans l'Ancien Testament, il y avait des grands prophètes qui étaient appelés par Dieu, ainsi Amos, mais qu'ils ont été en butte à bien des difficultés, que souvent ils se sont heurtés aussi à des affaires religieusement correctes. Vous savez, on a l'habitude de dire politiquement correctes, mais il y a aussi des choses qui sont religieusement correctes, c'est-à-dire faut dire des choses, mais enfin pas trop, faut pas trop déranger. Et Amos s'est heurté à ça. Il y avait des sanctuaires royaux avec des prophètes rémunérés, si j'ose dire, par le roi. Et on a dit à Amos, passe ton chemin, va donc prophétiser ailleurs, t'as rien à faire ici. Et il s'est heurté à cette difficulté. Bon. Mais si nous revenons à la question de ces exercices pratiques que Jésus a fait faire à ses disciples, nous pouvons nous dire que nous aussi, Jésus nous envoie en mission, en évangélisation. Et je pensais tout à l'heure, avec la prière « Je confesse à Dieu », vous savez, nous disons « Je confesse que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ». On pourrait dire un peu la même chose pour l'évangélisation, qu'on a évangélisé en pensée, en parole, en action, mais que souvent nous évangélisons par omission, c'est-à-dire que nous oublions de le faire. Et malheureusement, nous considérons que notre vie chrétienne est un peu pour notre propre engraissement spirituel, si j'ose dire. Voilà, on essaye de faire ce qu'il faut, mais on n'est pas très orienté vers l'extérieur et vers le partage à d'autres du message de l'Évangile. Qu'est-ce que ça voudrait dire, par exemple, évangéliser en pensée? Peut-être ça voudrait dire évangéliser par la prière. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la nécessité de prier pour évangéliser, c'est-à-dire d'abord de demander au Seigneur de nous donner des occasions d'évangéliser. On peut très bien, tous les jours, dans sa prière le matin, dire « Seigneur, donne-moi aujourd'hui au moins une occasion de partager ma foi, de témoigner de toi, d'évangéliser, et donne-moi de discerner cette occasion que tu me donnes, de la voir clairement. » Voilà. Donc ça nous met vraiment à disposition du Seigneur. Mais il faut savoir tout de même que la prière est un levier puissant et un moyen puissant d'évangélisation. J'ai sous les yeux, dans le fond de cette église, la statue de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a passé des années enfermée dans son Carmel et qui, cependant, a été proclamée patronne des missions, et qui avait vraiment un sens profond de l'évangélisation, et qui disait, par exemple, dans mon Carmel, je marche au profit d'un prêtre missionnaire, etc. Enfin, voilà, elle priait, elle soutenait, elle évangélisait en restant à sa place et en priant. Donc, évangéliser, ce n'est pas forcément faire des choses mirobolantes et des actions prodigieuses, mais d'abord, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, nous pouvons le demander par la prière et l'obtenir par la prière. Évangéliser en parole, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'il ne faut pas oublier non plus la dimension d'un témoignage direct, d'une parole à prononcer, de nous déclarer chrétiens devant les autres, de ne pas avoir peur de le faire, de ne pas avoir peur d'aborder ce sujet qui souvent est un sujet devenu tabou. Vous savez, autrefois on disait que la sexualité était tabou, mais aujourd'hui ce serait plutôt la foi. Et il ne faut pas oublier d'aborder la chose avec les personnes que nous rencontrons et de prononcer une parole en tout respect, bien évidemment. Il ne s'agit pas de faire du prosélytisme, mais de partager par la parole et par des moyens qu'il nous faut découvrir. Évangéliser en action, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, alors ça c'est à chacun de nous de voir, parce que ça peut être, n'est-ce pas, dans notre milieu familial, c'est d'ailleurs là que c'est le plus difficile souvent, hein. Comme dit Jésus, nul n'est prophète dans son pays. Et donc dans notre propre famille, c'est souvent le cas. On nous dit, écoute, on en parlera une autre fois, hein, et nous avons du mal. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire, évangéliser en action, selon notre profession, selon nos engagements, selon les personnes que nous rencontrons, selon des actions peut-être à mettre en œuvre en s'organisant pour cela? Je ne sais pas, c'est à chacun de nous de voir, parce qu'il n'y a pas de, il n'y a rien comment dire, il n'y a pas de recette à ce sujet. Il y a autant d'actions d'évangélisation possibles que de milieux, de configurations de vie, etc. Mais je pense, tiens, nous devrions, l'autre jour, j'étais faire des courses à Castorama et en revenant, j'aborde ma voiture, je fais comme ça avec mon LN, et je vois sur la portière une toute petite carte de visite qui avait été insérée en haut de la vitre sur la portière qui s'ouvrait. Donc j'ai pris la carte de visite, évidemment, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement que de la voir. Je me suis dit de quoi s'agit-il. C'était un électricien qui disait, voilà, si vous avez une panne, mon numéro de mobile, voilà. Et je me disais, mais sur notre paroisse, ici, nous avons combien d'énormes parkings à voiture, entre Auchan, le centre qui va se créer, qui va bientôt s'ouvrir, celui de Castorama, etc., etc. Est-ce que nous ne pourrions pas faire quelque chose en ce sens, vis-à-vis de toutes ces personnes qui stationnent ici? Enfin, je ne sais pas, mais il y a des réalités à chercher ensemble, des actions à entreprendre, à chercher ensemble et à mettre en œuvre ensemble. C'est pas forcément ça, ça peut être tout à fait autre chose, mais soyons inventifs pour évangéliser. Nous ne sommes plus à l'époque où on pourrait penser que ça suffit de baptiser, de faire le catéchisme, et puis que sais-je, enfin, c'est pas vrai, nous le savons bien. Et il faut aujourd'hui trouver des chemins nouveaux et différents pour rejoindre les personnes qui se posent des questions, qui cherchent, qui pour une raison ou pour une autre ne sont pas ouvertes peut-être à aborder la paroisse ou l'église telle qu'elle peut se présenter à l'extérieur, mais qui pourraient venir à une proposition que nous ferions. Enfin, il faut chercher, il faut chercher, il faut avoir le courage d'inventer des choses nouvelles pour aujourd'hui. Mais avoir la certitude que le Seigneur est avec nous pour cela. Parce que c'est véritablement son œuvre, l'évangélisation. Le pape Paul VI avait eu ce trait de génie de dire l'Église existe pour évangéliser. L'Église existe pour évangéliser. Elle n'existe pas pour elle-même, mais pour porter la bonne nouvelle à ceux qui nous entourent. Dans les consignes que Jésus donne, c'est assez curieux, vous savez, on a l'impression que c'est des trucs qui ne nous concernent plus, n'est-ce pas? Quand Jésus dit ne rien emporter pour la route, ça veut dire ne pas nous fier aux réserves humaines et à tout ce qui peut être puissance particulière, n'avoir ni pain, ni sac, ni pièce de monnaie dans sa ceinture. Bon. L'évangélisation ne repose pas sur des performances humaines. si ce n'est un bâton. C'est assez curieux, ça. De ne rien emporter pour la route, si ce n'est un bâton. Mais si nous connaissons un tout petit peu la Bible, le bâton, ça fait référence à ce bâton de berger qui était dans la main de Moïse, et dont vous savez qu'il venait avec ce bâton trouver Pharaon et se battre contre les magiciens qui produisaient des prodiges. Et lui lançait son bâton qui se transformait en serpent, qui engloutissait les serpents des magiciens, et ainsi de suite. Relisait le livre de l'Exode. Et donc, quand je lui ai dit « si ce n'est un bâton », ça veut dire avoir la certitude que nous partons avec la puissance de son Esprit Saint pour cette œuvre d'évangélisation. Et Jésus nous montre, et l'évangéliste aussi, que, au fond, la parole que nous avons à prononcer, c'est aussi l'appel à la conversion. Ils partirent, proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ce que nous avons à dire aux personnes autour de nous, c'est peut-être qu'il faut changer de vie pour rejoindre le Seigneur. Ça ne se fera pas tout seul, mais que si nous avons vraiment le désir d'aller à lui, il faut vivre selon son appel et sa parole. Il chassait beaucoup de démons, faisait des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissait. Les signes de libération et de guérison sont véritablement insérés dans cette œuvre d'évangélisation. Il n'y a pas de libération et de guérison en soi et pour soi-même, parce que ça, c'est nombriliste. En revanche, le Seigneur permet et donne des signes de guérison et de libération dans le cadre de l'annonce de sa parole. Et nous pouvons être assurés que le Seigneur en donnera pour accréditer la vérité de sa parole. Méditons cet évangile peut-être cette semaine et puis réfléchissons et prions sur notre mission d'évangélisateur. Vous savez que le Concile Vatican II a vraiment souligné que tout baptisé est appelé à être évangélisateur là où il est.